Avec quoi se réveille-t-on ? C'est idiot comme question, mais la réponse, vous allez voir.
Mais c'est avec le 7h14 de France Culture, cher Jean-Pierre Pernaut.
C'est magnifique, on va rester de bonne humeur la semaine prochaine.
Bonjour, Nicolas Martin, pour votre radiographie du coronavirus, car c'est une joie et une souffrance, la pandémie continue, et aujourd'hui vous allez tout nous expliquer sur les études publiées cette semaine sur les vaccins anti-Covid.
Oui, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. On les attendait, hein, ces études. Vous vous souvenez, quand je vous en parlais, que l'un des gros points d'interrogation que l'on pouvait avoir sur les vaccins, c'est que tout ce qu'on en connaissait, c'était via des communiqués de presse des laboratoires et que la communauté scientifique n'avait accès qu'à des informations partielles, donc sélectionnées par ces labos. Là, on a deux publications qui sont tombées cette semaine. Pour le vaccin Pfizer-BioNTech, dans le New England Journal of Medicine, ça a été publié hier soir. Et pour le vaccin AstraZeneca-Oxford, qui a été publié dans The Lancet. On sait donc plus sur les résultats, notamment sur ce qui inquiète la population, à savoir les effets indésirables, d'autant plus après ce qui est arrivé cette semaine, à savoir deux allergies sévères en Grande-Bretagne sur des patients qui ont été vaccinés par le vaccin Pfizer. Alors avec ma camarade Alexandra Delbon, on a épluché ces études assez fournies et je vais tout vous expliquer.
Et ben alors on commence avec le vaccin Pfizer.
Oui, c'est le plus attendu, hein, puisque vous le savez, donc la vaccination a commencé en Grande-Bretagne. Voilà les données dont on dispose. Sur les 45 000 personnes annoncées dans le communiqué de presse, on a des données sur 37 000 personnes, moitié-moitié dans le groupe vaccin et donc moitié-moitié dans le groupe placebo. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette cohorte, hein, des patients qui figuraient dans cet essai clinique de phase 3 ? L'âge médian, c'est-à-dire la moitié au-dessus, la moitié en dessous, est de 52 ans, ce qui est relativement jeune quand on pense que ces vaccins sont adressés a priori au premier chef aux personnes les plus âgées qui sont les plus sensibles à la maladie Covid. Une autre population qui a été relativement un peu incluse, ce sont les minorités ethniques, et on sait là aussi que parfois certains variants génétiques peuvent modifier la susceptibilité de certains médicaments. En revanche, ce qui est assez positif, c'est que 40% des patients testés présentaient des comorbidités, ce qui est bien compte tenu que c'est là aussi l'autre grande partie de la population qui est sensible à la maladie. On obtient donc 8 cas de Covid dans la population vaccinée, 162 dans le groupe contrôle qui a reçu un placebo, ce qui donne ces fameux 95% d'efficacité. Alors on en vient à ce qui inquiète tout le monde, les effets indésirables. Tout d'abord, il faut savoir que l'étude montre l'absence totale d'effets qu'on estime graves. L'effet principal secondaire, c'est une réaction inflammatoire douloureuse au point d'injection dans 80% des cas, qui dure 1 à 2 jours. Hein. Je sais pas si vous vous êtes fait vacciner, vous savez, parfois on a une petite boule rouge un peu chaude qui fait mal dans le bras. 80%, vous allez me dire que c'est beaucoup, mais c'est une réaction tout à fait normale. C'est une petite réaction inflammatoire classique. C'est le signe que votre système immunitaire réagit immédiatement contre un intrus, contre ce qu'on vient de lui mettre à l'intérieur. C'est donc plutôt bon signe. D'ailleurs, on constate qu'il y a moins d'effets secondaires indésirables au point d'injection chez les personnes les plus âgées qui ont, vous le savez, un système immunitaire un peu plus fatigué, donc moins réactif. Donc tout cela est absolument normal. De quoi parle-t-on sur les autres effets secondaires ? On parle de choses tout à fait classiques pour la vaccination. Un petit coup de fatigue, parfois des maux de tête, de la fièvre dans 8,3% des cas et jusqu'à 15,8% chez les plus jeunes, ce sont exactement les effets secondaires que l'on trouve dans le vaccin contre la grippe. Alors, ils sont un peu plus fréquents que dans le vaccin contre la grippe, mais c'était attendu puisque, vous le savez, on en a parlé ici, ces vaccins contre le SARS-CoV-2 sont des vaccins à ARN messager, et l'ARN messager est très très réactogène, hein, comme nous l'expliquait Eric Billy, qui est chercheur en immuno-oncologie à Strasbourg et membre du collectif du côté de la science. Ce qui se passe, c'est que dans le vaccin à ARN, en fait, ce petit ARN, il est encapsulé dans une capsule de lipide qui va ensuite passer dans le système immunitaire, mais il y a toujours des petits brins d'ADN qui se baladent tout seuls. Or, ces brins d'ADN, ils sont immédiatement reconnus par le système immunitaire, d'où ces petites réactions d'inflammation très localisées. Alors, je vais absolument tout vous dire parce qu'il y a d'autres cas qui pourraient être un peu plus inquiétants quand on lit l'étude. Notamment 12 cas d'appendicite, 8 dans le groupe placebo et 4 dans le groupe vaccin. Mais compte tenu de la population, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, hein, de plus de 30 000 personnes, on considère que c'est le fruit du hasard, c'est totalement statistique et ça ne peut pas être lié au vaccin. Il y a un autre truc qui s'appelle la paralysie de Bell. Là, en l'occurrence, il y a eu 4 cas dans le groupe vaccin et 0 dans le groupe placebo. La paralysie de Bell, c'est une paralysie temporaire de la moitié du visage qui est due à l'inflammation d'un nerf facial. Statistiquement, une fois de plus, 4 cas dans le groupe vaccin, donc de 18 000 personnes. On ne peut pas dire que ce soit significatif, mais la FDA américaine recommande néanmoins une vigilance spécifique. Il faut préciser que cette paralysie de Bell, c'est une paralysie absolument temporaire qui se guérit complètement sans effet secondaire et qui ne laisse aucune séquelle. Il faut bien comprendre donc que toutes ces réactions, ce sont des réactions inflammatoires, bénignes, qu'on retrouve dans d'autres processus vaccinaux et que l'étude du vaccin Pfizer ne montre donc, je le répète, aucun effet secondaire grave ou sévère.
Bon, bah, très bien Nicolas, mais alors dans ce cas-là, que s'est-il passé avec les deux réactions allergiques sévères cette semaine en Grande-Bretagne ?
Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut que je vous précise ce que sont les critères d'exclusion d'un essai clinique. Dans un essai clinique, on exclut quasi systématiquement des patients en bonne santé, mais à risque, puisque je vous rappelle que contrairement à un médicament qui soigne une pathologie, quand on vous vaccine, vous êtes en bonne santé. On ne teste pas des personnes qui ont des pathologies déclarées. On exclut donc ainsi toujours quasiment les femmes enceintes, par exemple, les personnes qui sont très lourdement immunodéprimées et les personnes qui sont allergiques à l'un des composants du vaccin ou qui ont déjà fait un choc anaphylactique, c'est-à-dire une énorme poussée allergique très grave. Elles ne sont pas incluses dans l'essai, évidemment, pour les protéger parce qu'elles sont beaucoup plus à risque que la population normale. Les deux personnes qui ont déclaré ces réactions allergiques sévères cette semaine, ce sont deux personnes qui sont du personnel soignant et qui étaient, elles, lourdement allergiques. Pour tout vous dire, elles avaient toutes sur elles des seringues d'adrénaline parce que les gens qui sont lourdement allergiques, il faut réagir extrêmement vite quand on fait une allergie parce que ça peut aller très vite et on peut décéder en quelques dizaines de secondes. C'est donc un terrain très sensible. Or, qu'est-ce que c'est qu'une allergie, Guillaume ? Une allergie, c'est une réaction démesurée du système immunitaire à un composé qui est normalement toléré par l'écrasante majorité des gens. Or, quand on vaccine, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on stimule précisément le système immunitaire. C'est pourquoi c'est dangereux pour les grands allergiques. D'où la recommandation des services sanitaires britanniques. Pas de vaccin pour les grands allergiques. C'est presque une évidence, mais il fallait que ça se produise pour qu'on le dise. Les deux personnes, en l'occurrence, sont tout de même, il faut le préciser, aujourd'hui hors de danger.
Bon, et le vaccin d'AstraZeneca alors, Nicolas ?
Alors, le vaccin d'AstraZeneca, ça n'est pas un vaccin à ARN messager, c'est un vaccin à adénovirus atténué. C'est donc un virus qu'on empêche de proliférer, dans lequel on va insérer le petit brin d'ADN qui code pour la protéine de surface, la protéine Spike. Les résultats du communiqué de presse qu'on avait ont été tout à fait confirmés par l'étude publiée dans The Lancet. Paradoxalement, cette étude d'ailleurs est plutôt plus brouillonne que celle de Pfizer, sur une cohorte un peu plus petite, puisque sur 11 600 patients seulement, l'efficacité qui était annoncée dans le communiqué de presse de 70% a été confirmé. La cohorte, là aussi, comme chez Pfizer, est très jeune, moins de 55 ans, avec cette fois seulement 20% de comorbidité. Le problème dans cette étude, c'est que une partie du premier groupe vaccin n'a reçu qu'une demi-dose lors de la première injection. Et paradoxalement, le groupe qui a reçu la demi-dose a des meilleurs résultats avec une protection de 90%, alors que la protection globale est de 70%. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? En fait, c'est un effet statistique. Dans le groupe qui a reçu la demi-dose, eh bien, c'était un groupe beaucoup plus jeune, tous de moins de 55 ans, de 1367 personnes, une cohorte plus petite. Et donc, quand on est sur des groupes plus petits, il peut y avoir des effets de sélection qui sont possibles, c'est-à-dire moins de personnes à risque, par exemple, qui sont représentées. Face à cette critique que AstraZeneca a entendue, le laboratoire a annoncé qu'il allait faire des études supplémentaires pour vérifier ces résultats. Si on parle des effets indésirables, en l'occurrence, là, il y a eu trois effets indésirables graves. Une myélite transverse, c'est une paralysie transitoire des membres inférieurs, dont une seule a été imputée au vaccin. Les deux ont pu être reliés à d'autres états de santé des patients. Alors, c'est un effet, la myélite transverse, un effet rarissime de la vaccination qu'on a retrouvé dans d'autres processus vaccinaux, de l'ordre de une personne pour 50, voire une personne pour 100 000. Donc, là aussi, on considère que c'est un effet statistique qui reste dans la norme. Pour conclure, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux étude publiée confirme deux choses. Tout d'abord que ces vaccins sont efficaces et que dans l'état actuel de nos connaissances, ils sont sûrs. Les effets indésirables sont statistiquement, je vous le disais, dans la norme et ne remettent pas en cause le balance bénéfice-risque parce que un petit mal de crâne, de la fièvre temporaire ou une douleur à l'injection, ce sont des effets classiques des vaccins qui déclenchent, je vous l'ai dit, le système immunitaire, qui déclenchent de l'inflammation, ce qui est presque bon signe, ce qui veut dire que votre système immunitaire fonctionne. Mais si on a un effet grave, et quand on parle même de pathologie transitoire, c'est-à-dire qui disparaissent en quelques jours pour 50 à 100 000 personnes, personnes, ça n'est rien par rapport à la maladie Covid qui tue, elle. Si on prend un taux de létalité de 0,7, ça veut dire 700 personnes mortes pour 100 000, à comparer à un cas grave transitoire pour 50 ou 100 000, évidemment, le bénéfice est du côté du vaccin, sans compter que les séquelles pour les personnes qui sont malades et qui sont fragiles ou les séquelles de la réanimation sont beaucoup plus importantes et sans comparaison avec celles que peuvent produire la vaccination.
Merci beaucoup Nicolas Martin pour cette radiographie du coronavirus.